des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877-827-2346.
Alors, le premier ministre François Legault a dit on va avoir une immigration 100% francophone. Et moi, lorsque j'ai entendu ça, mon premier réflexe, c'est coudonc, il vient de dire que finalement, ça sert à rien de franciser les immigrants, que tout ça est un échec, qu'on n'est pas capable. Donc, on va arrêter d'essayer de les franciser, puis on va aller chercher des immigrants qui parlent déjà français. Je sais pas si je suis seul à avoir cette réaction-là. Je vais en parler avec Tania Lompré, une fille que j'aime beaucoup, qui est chargée de cours, enseignante, consultante en francisation. Salut Tania.
Salut,
Richard. As-tu eu la même réaction, toi, Tania, en disant, ben là, c'est-à-dire qu'il vient de dire que finalement, ça sert à rien de franciser les immigrants?
Ah, en fait, j'aimerais te dire que non, mais...
Non, vas-y.
Oui, mais oui, c'est une déclaration d'échec pour certains services, mais d'un autre côté, c'est quand même incontournable. Tu sais, donc, depuis quelques années, je te dirais que le programme d'immigration change beaucoup au Québec. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent par les programmes de travailleurs étrangers ou d'étudiants étrangers, puis il y a de moins en moins de gens, tu sais, qui passent par le programme des travailleurs qualifiés, qui sont les plus francisés du lot. Donc, tous ceux qui passent par la grille régulière, souvent, vont connaître le français ou vont apprendre le français avant d'arriver au Québec, puisqu'ils vont avoir des points dans la grille de sélection des immigrants pour arriver au Québec avec cette connaissance de la langue-là. Mais tous ceux qui arrivent avec d'autres programmes, on demande aucune connaissance du français avant l'arrivée. Donc, on peut très bien venir étudier à Concordia ou à McGill, par exemple, sans parler un mot de français, puis décider 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, de vouloir rester au Québec ou passer par le Québec pour migrer dans une autre province, ça aussi, ça existe. Mais c'est ces programmes-là qui font en sorte que les gens parlent moins français lorsqu'ils arrivent au Québec. Donc, oui, il y a une réalité de plus en plus élevée de gens qui arrivent sans parler français. Est-ce qu'on n'est pas capable de franciser ça? C'est une autre histoire. Tu sais, je pense qu'on est capable. Est-ce que les gens viennent? Tu sais, fait que ça, il y a beaucoup de... On est capable. Moi, je te dirais que je fais ça depuis 15 ans.
Ben oui, bien, tu sais, je vais sur ta page Facebook, puis tu mets des photos de tes étudiants qui t'apprécient énormément et qui disent, ben grâce...
Tout le monde, les autres enseignants aussi.
Oui, mais tu sais, qui disent, grâce à vous, maintenant, on a appris le français. Écoute, pensons aux Boat People qui sont arrivés là, du Vietnam, puis qu'on a réussi à les franciser. Pensons aux Chiliens qui sont arrivés parce qu'ils ont quitté le Chili, parce que c'était une dictature, ils sont venus ici, ils ont fini par parler français, là, puis s'intégrer parfaitement.
Puis aux Serbes, aux Syriens, aux Ukrainiens qui sont en train d'apprendre présentement dans nos classes, il y a plein de gens qui apprennent le français puis qui réussissent à l'apprendre. Donc, c'est sûr que quand il y a une volonté gouvernementale, puis les programmes sont bien faits, on réussit à franciser. Bon, là, quand il y a des gens qui ne viennent jamais s'inscrire, parce qu'ils ont une obligation à le faire, qui réussissent à travailler tout ça en parlant d'autres langues, c'est sûr que la francisation est un constat d'échec quand on la fréquente pas ou quand mais ceux qui réussissent à faire la francisation atteignent souvent un seuil d'autonomie langagière là qui leur permet de parler, se faire comprendre les autres, travailler en français. Tu sais, je dis pas que c'est tout le monde qui réussit à atteindre un bon niveau, mais justement pour ça, je pense qu'il faut aller comme les immigrants francophones, c'est pas des bassins qui sont inépuisables. Là. Il y a des francophones beaucoup en Afrique du Nord, en Europe, tout ça. Mais quand les gens arrivent de l'Amérique latine, ou d'ailleurs, ou d'Asie, c'est souvent la maîtrise du français n'est pas là parce que à cause de plusieurs, il y a pas de cours de français dans les écoles en Colombie ou au Japon. Tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de japonais là, mais tu comprends ce que je veux dire. Je crois. Puis je pense que le gouvernement aurait intérêt à peut-être moduler ses exigences là, linguistiques, parce qu'il ne le fait pas complètement présentement encore. T'sais. Puis, d'un autre côté, ben, il faut aller voir aussi qu'il y a des immigrants francotropes partout dans le monde. Ça, c'est quoi, francotrope? C'est des gens qui ont une langue qui ressemble au français.
Comme l'espagnol. L'Italie.
Comme le portugais, comme l'italien, comme le catalan, comme le roumain. Donc, il y a des gens qui parlent ces langues-là qui sont capables d'apprendre le français beaucoup plus vite parce que la langue est plus proche que si, par exemple, parler tamoul ou ourdou. Donc, la langue est beaucoup plus difficile à apprendre. Donc, là aussi, il y a des bassins puis il y a des choses qu'il faut. Dans les données statistiques qu'on a au Québec, bien, on sait que les gens francotropes vont apprendre le français davantage. Fait que, se limiter seulement aux francophones, puis je pense qu'on peut aller ratisser plus large, mais je pense aussi qu'on peut changer les programmes pour que les gens viennent de français davantage.
Mais ça arrive quand même des belles histoires de francisation. Mais là, écoute, pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails, est-ce que c'est obligatoire de suivre des cours de francisation quand tu arrives au Québec?
Si vous avez moins de 16 ans, oui. Si vous avez plus de 16 ans, non, parce que la loi 101 s'arrête à 16 ans.
Mais c'est pas justement un problème, au lieu de dire rendre ça obligatoire. En même temps, quand tu débarques ici, tu es un immigrant, t'as ton premier, ta première nécessité, ton premier besoin, c'est de trouver une job puis travailler pour faire vivre ta famille.
Là. Tout à fait. Mais je pense que si on mettait, par exemple, je sais pas, mais si on demandait aux gens un premier diplôme en français qui arrive de l'extérieur, ou si, par exemple, on avait un examen de français pour accéder à ça. On en a un là, c'est pour que les gens puissent aller à la citoyenneté au Canada. On demande un niveau 4 soit en français ou en anglais. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pour en français pour avoir la citoyenneté, mais c'est pas nécessairement suffisant.
Mais est-ce que ça serait possible de rendre ça obligatoire la fréquentation même pour les plus de 16 ans?
Ben oui et non. Je suis pas avocate, mais je crois que on pourrait quand même peut-être monter ça d'une année ou deux là, pour que les jeunes qui arrivent ici c'est à 16 ans, 17 ans, 18 ans passent par l'école en français d'abord là, pour avoir un premier diplôme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Après ça, ben obliger les cours de français, c'est toujours un peu difficile, mais de légiférer, c'est par exemple pour dire ben si vous voulez je pense que c'est comme un moyen d'y arriver, là, pas nécessairement par une loi pour que vous arrivez au Québec, vous devez apprendre le français, mais d'avoir quand même un chemin qui favorise beaucoup là, en ayant comme une carotte au bout d'une carotte et le bâton un peu là, de dire qu'est-ce que vous devez. Par exemple, si on avait le permis de conduire puis on disait ben, vous devez le réussir en français, tu sais, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que les gens veulent apprendre, ben ceux qui viennent pas le français viendrait probablement.
Parce que moi, le sentiment que j'ai eu quand on dit une immigration 100% francophone, c'est que il y a un constat d'échec sur la francisation. Puis je me suis dit, pourtant, il y a des très belles histoires de francisation. On en connaît plein d'immigrants qui ont appris le français, puis qui se sont intégrés. Mais là, on dirait qu'ils se disent, oh, c'est trop compliqué. La situation est tellement urgente. On va aller vers des immigrants 100% francophones. Et c'est ça qui est.
Qu'on peut le faire, mais c'est difficile parce qu'il va quand même avoir des gens qui vont entrer avec d'autres programmes. Fait que c'est un peu utopique de penser qu'on va aller vers ça.
OK, donc toi, t'es un peu cynique quand il dit une immigration 100% francophone. Tu prends ça avec un grain de sel.
Bah oui, parce que ça va être peut-être qu'ils peuvent le faire pour le programme de travailleurs qualifiés là, qu'on appelle le PRCQ, mais pour toutes les autres façons d'entrer au Québec. Que ce soit les parrainés, que ce soit les réfugiés, que ce soit les demandeurs d'asile, que ce soit les gens qui viennent étudier, que ce soit les gens qui viennent travailler pour une entreprise, ben il y a beaucoup plus de gens qui passent par ces chemins-là que par les programmes réguliers. Donc oui, on peut contrôler 100% de l'immigration du PRCQ demander français, on peut le faire, mais les gens qui passent par le chemin Roxham, les gens qui vont
être
réfugiés, qui sont parrainés, qui viennent travailler dans une usine pas loin de chez vous, tout cela, il n'y a rien à faire.
Tout à fait. Et du côté de la francisation, parce que, tu sais, on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps, aller chercher des immigrants 100% francophones, mais ne pas abandonner la francisation des autres immigrants. Est-ce que tu sens qu'on a donné un certain coup de barre? Est-ce qu'on a ajouté des effectifs? Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, ça touche aussi ton domaine?
Oui, ça touche notre domaine aussi. On a de plus en plus d'enseignants qui sont non légalement qualifiés chez nous aussi. Donc, c'est sûr qu'on manque d'enseignants. Puis d'un autre côté, au niveau des programmes, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé en 2019, mais tu sais, les immigrants gagnent à peu près 6 $ de l'heure pour venir se franciser présentement. Puis, filer des burgers chez McDo présentement, c'est genre 18 ou 19 $ de l'heure. Fait que c'est sûr qu'on est en compétition constante, même avec la main-d'œuvre de base, tu sais. Fait qu'on a des gens ici qui sont très, très scolarisés, mais qui vont dire, ben, tu sais, j'aime mieux travailler chez Tim Hortons puis faire vivre ma famille que pas avoir beaucoup de sous en francisation. Fait que, tu sais, je pense que si on veut que les gens viennent, il faut prendre ces programmes-là plus au sérieux. Puis oui, on a une structure qui est bonne pour franciser les gens, mais si on n'arrose pas assez la plante, elle ne grandira pas.
Et Tania, est-ce que tu es pessimiste sur l'état de Montréal, l'état du français à Montréal? Tu te promènes là, dans les commerces, là, on le voit, là, c'est de plus en plus difficile de se faire servir dans notre langue. Est-ce que tu es pessimiste?
Oui, pas juste pour Montréal, pour Laval aussi. C'est de plus en plus, je me rends compte que c'est un peu partout. Oui, c'est sûr que les choses changent. Je pense que par contre, si les gens se rendent compte que le français est optionnel, ben ça va descendre de plus en plus, la fréquentation des cours, l'apprentissage du français. T'sais. Je pense que tu m'envoyais un message fort comme société, comme francophone. Je pense que c'est important de parler aux gens en français. Comme ça, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de la langue. Mais quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une langue, moi, j'ai jamais appris le japonais parce que j'en ai pas besoin. Fait que c'est sûr que si vous venez habiter à Montréal ou à Laval, puis vous vous rendez compte que vous pouvez passer 15 ans facilement à vivre votre vie sans parler un mot français, ben on n'envoie pas le bon message.
Ben c'est ça, on tire un peu dans le pied. Là. On a beau dire on veut des immigrants 100% francophones, si on continue à faire en sorte que tu n'as pas besoin de parler français pour avoir un emploi à Montréal, ben on n'avance pas, on recule. Heureusement, il y a des gens...
Les immigrants francophones se rendent compte aussi qu'ils doivent apprendre l'anglais. Fait que, ça aussi, c'est un autre constat que les gens font. Ils arrivent ici puis ils font « Hey, moi, on m'a choisi parce que je parle français, mais quand je veux travailler au 9-1 à Laval, par exemple, on me refuse parce que je ne parle pas anglais. »
Ben oui.
Fait que c'est utopique, là.
En tout cas, heureusement, il y a des gens comme toi qui aiment la langue française, puis que t'es passionné, puis que tu réussis à la faire aimer par les nouveaux arrivants. Comme je le dis, là, je vais souvent voir ta page Facebook, puis tes élèves t'aiment beaucoup. Je vois des vidéos et des photos. Donc, bravo pour ton travail, Tania Lompré. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon week-end.